EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle et je commence aujourd'hui en vous partageant un petit témoignage. Je pense qu'on a trouvé dans les commentaires sous une émission. Merci infiniment. Jeune dans le mariage, je découvre beaucoup de réalités sur lesquelles j'ai parfois du mal à mettre des mots. Vos deux dernières émissions, bon je sais pas c'était lesquelles émissions de À table, mais toutes les deux dernières émissions sont toujours excellentes, m'ont beaucoup aidé à me sentir moins seule, comprise et ça m'a beaucoup encouragée. Ce que vous faites est très précieux. Merci pour tout. Soyez bénis. Merci beaucoup pour votre commentaire. Et on est heureuse que toutes ces émissions sur tous ces thèmes totalement différents aussi puissent bénir, répondre à différentes questions, différentes thématiques. C'est la beauté, je trouve, de l'émission, entre autres, d'À table avec Annabelle. Mais c'est aussi de pouvoir entendre des témoignages. Et on vous l'a dit en début de semaine, aujourd'hui, on a une émission qui est un petit peu spéciale, qui est même très spéciale, en fait, je dirais, parce que nous sommes avec Philippe, qui n'est nul autre que le fils de Stéphanie. Il y a encore quelqu'un dans l'équipe, il y a quelques minutes, qui vient de découvrir que ta mère était Stéphanie. Ouais, donc imagine la francophonie au complet. Et c'est une émission qui est spéciale, une émission qui est, comme je disais, qui est chère au cœur de Stéphanie, parce qu'aujourd'hui, elle est là aussi en tant que maman avec son fils. Et ensemble, ils vont nous raconter leur histoire, ce par quoi ils ont pu passer entre Philippe en tant que Philippe et Stéphanie aussi en tant que maman, parce que derrière ce beau sourire, eh bien Stéphanie, il y a eu pas mal de combats. Quelquefois tu l'as dit sans trop rien révéler parce que tu as voulu respecter la vie de ton fils, mais il y a eu des années pas faciles.
Oui, écoute, je pensais même pas, je me dis, faut pas que je sois émue, puis même en commençant, je suis émue. Donc, c'est, franchement, je suis tellement contente de faire cette émission-là avec mon fils, c'est vrai. Pour certains qui m'ont vu à travers la Franco partager, je l'ai dit à mon couvac, qu'on a traversé des moments difficiles, et aujourd'hui, c'est un jour de victoire, vraiment, de bonté de Dieu, comment Dieu a fait un miracle dans la vie de Philippe, mais que Philippe a traversé des choses difficiles. Mais juste avant de commencer, je
peux
dire que je suis fière de toi.
Oh, ah, merci.
Alors,
je suis
voilà.
Fière de toi aussi.
Bon, j'ai un petit dilemme. Je pensais même pas. Déjà, j'ai dit, mais non, je pleure.
Mais on savait tous que tu allais être émue, Stéphanie.
Mais pas moi, je me dis, mais non, c'est une victoire. Mais
oui, bon, on se réjouit. Oui. Mais c'est aussi de reparler un petit peu de tous ces événements, de toutes ces années. Là, on va revenir dans le passé. On revient en quelle année, Philippe? En quelle année tu veux commencer?
Ben, on peut commencer par le commencement, je suppose. Le fait que ben, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en allant à l'église, en allant dans les camps chrétiens, tout ça, avec quand même une foi, mais sans dire que j'avais une grande relation avec Dieu, tout ça. Il y avait un peu un côté, c'était la culture familiale, c'était un peu le Dieu de mes parents, tout ça. Mais j'avais quand même eu des moments où j'avais un peu goûté à la présence de Dieu, que j'avais une foi, et que quand je voyais l'univers, je voyais le monde, tout ça, je voyais Dieu. Mm-hmm. Donc clairement, avec une foi dès un jeune âge.
Mm-hmm. Heureusement, ça a été un dépôt, hein, franchement. Ouais. Ça a été un dépôt, et puis on va aller directement dans les années de secondaire, donc ouais. Pour le lycée, pour ceux qui, ouais. qui situent. Et là, déjà, quand t'es dans l'adolescence, tu commences déjà à toucher à différentes choses, à la drogue, l'alcool.
Ouais, ben ça a commencé plus tranquillement, dans une optique un peu plus festive, récréative, donc aussi peut-être des gens autour de moi qui étaient un peu moins des bonnes influences, tout ça. Mon cercle d'amis le plus proche n'était pas nécessairement des gens de l'église, même si à l'adolescence je vais encore à l'église. Mm-hmm. J'ai des amis chrétiens, des connaissances chrétiennes, mais c'est pas la partie importante de mon cercle social, si on veut. Et donc, la consommation en rentre tranquillement, un peu plus des fêtes ou des parties, comme on appelle ici au Québec. Consommation d'alcool, fumer de la marijuana, tout ça. Mais c'est vraiment plus occasionnel à ce moment-là de ma vie.
Toi, t'es au courant de tout ça?
Ben oui, non. Je te dirais qu'il y a une bonne période que même quand il a commencé, pour l'anecdote, à consommer de la marijuana, j'étais tellement naïve dans mon monde que je suis rentrée à la maison puis j'ai dit à mon mari, ça sent la moufette chez nous. Franchement, je pense qu'on a une moufette dans le garage. Moi, je soupçonnais rien du tout. Moi, mon fils, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Donc, c'est là que je me suis dit, ben franchement, non, j'étais pas au courant.
La moufette. Toi aussi, t'as essayé de chasser la moufette.
Ouais. Finalement, on s'est aperçu que la moufette
est un putois, pour ceux qui ne situent pas bien l'animal. Et du coup, c'est à partir de quand que il y a un virage et que c'est plus festif, c'est plus récréatif et qu'on tombe dans l'addiction?
C'est ça. Là, au secondaire, je suis quand même quelqu'un qui est assez performant à l'école.
Très performant.
Et donc, ça se passe bien. J'ai pas des grosses problématiques. C'est plus après, ici au Québec, on a le cégep après le secondaire.
Donc là, on arrive à 18 ans environ, c'est ça?
Ouais, 17-18 ans. Et donc là, ça commence vraiment à prendre une plus grosse partie dans ma vie. Et là aussi, j'ai ma voiture, j'arrive à l'âge adulte où mes parents, ils peuvent plus trop me dire quoi faire. Okay. Donc, je fais un peu à ma tête, je rentre à l'heure que je veux. Mm-hmm. Et là, je fais beaucoup, beaucoup la fête. Et là, c'est aussi, je ne vais plus à l'école. Je manque de plus en plus de cours parce que je suis trop lendemain de veille, j'ai trop la gueule de bois, tout ça. Donc, tranquillement, je commence à avoir plus des bons résultats à l'école et tranquillement, je vais abandonner l'école.
Mm-hmm. Ce qui fut un drame pour moi. Mm-hmm. Ouais. M'a annoncé qu'il arrêtait l'école. Pour moi, c'était comme la pointe de l'iceberg. Tu vois? Parce que l'éducation, c'était une valeur tellement importante chez nous. Donc là, ça a commencé à encaisser, tu vois. Mm-hmm. Et je me disais qu'il y a quelque chose en dessous de ça. Donc voilà, Phil.
Donc ça, c'est quelque chose qui va jouer. Après, il y a plusieurs choses qui vont embarquer dans ces années-là. Rupture amoureuse, des voyages un peu comme aussi, j'étais encore en lien un peu avec l'église, donc je vais faire un voyage missionnaire. Et ça, je vais aller juste après le tremblement de terre en Haïti.
Okay.
Et je vais vraiment voir un côté de la vie qui est dur. Mm. Je vais vraiment voir le pire de l'homme puis le pire de la misère humaine. Et ça va m'amener aussi un peu une colère contre Dieu, de me dire pourquoi ça peut prendre place, pourquoi tu tolères ça. D'autant plus dans un pays où les gens y sont très croyants.
Mm-hmm.
Bon, après, il y a d'autres croyances aussi qui sont un peu plus à l'encontre de Dieu là-bas, mais ça m'amène un peu une colère avec Dieu.
Donc, si tu avais vu ce jeune de 15 ans-là, tu as vu le cadavre?
J'ai vu une personne qui avait été lapidée dans un marché. J'ai vu un cadavre, en gros. J'ai vu des choses vraiment plus difficiles de la vie, moins choquantes. Mm-hmm. Et tout ça, un peu, ça commence à amener le côté que je suis encore dans la fête, mais de plus en plus, il y a un peu un mal de vivre, puis une perte d'espoir envers la vie en général. Donc, tout ça commence à s'accumuler. Aussi, le perte d'estime par rapport à l'école, que c'était très important dans ma famille, et que j'avais le potentiel de me rendre loin, je pense, académiquement. Mm-hmm. Mais de la consommation tranquillement qui s'immisce. Et là, il commence à avoir autre chose qui rentre. C'est plus juste l'alcool et la marijuana. Ça va être la cocaïne occasionnellement. Ça va être des pilules de consommation, donc les Xanax, les Percocet, tout ça.
Et là, du coup, tu fonctionnes comment au jour le jour? Tu sais, ça ressemble un petit peu à quoi?
Tranquillement, ça commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie.
Mm-hmm.
Aussi, avant, j'avais un cercle social qui était un peu... J'étais sportif, je jouais au foot, au soccer. J'avais un cercle qui était très... J'avais un cercle d'amis aussi qui était plus sportif. Mais là, tranquillement, mon cercle, il commence à basculer vraiment juste vers les gens
qui
consomment.
Mm-hmm.
Et donc, plus que je consomme aussi, plus que mes amis qui étaient plus des influences positives commence à
s'éloigner.
Me mettre de côté, de s'éloigner, parce que c'est une partie de moi qui...
Est-ce que t'as des comportements agressifs ou des choses comme ça qui se manifestent?
Un peu. C'est sûr que justement, ces personnes-là aussi, même si je dis qu'elles étaient plus des influences positives, étaient aussi des gens qui faisaient beaucoup la fête, tout ça. Et que je sors avec eux, mais moi, je vais plus me rendre qu'on arrive à la fin de soirée. Ouais, je vais toujours plus loin, je peux être ingérable. je peux être plus agressif et je peux avoir de la misère à me gérer tout ça.
Mm-hmm. Mais faut dire aussi que quand tu prenais ces fameux Xanax de rue là, qui est pas en fait pas par prescription, si tu veux, au début oui, mais après c'est ce que tu trouves dans la rue, fait que t'as plein de sources de substances qui bon. Mm-hmm. Donc alors pendant une bonne période de temps, Philippe, moi je l'avais à la maison comme ça et il s'endormait, il avait la bouche molle, et c'était plus le même Philippe, il pouvait tomber dans les escaliers, il dormait.
Mais là c'était plus un secret pour toi qui consommais, tu avais compris.
Oui, là c'était plus un secret parce que il arrivait dans des états pas possibles. Mais comme il l'a dit, il était rendu à 18 ans, donc on avait beau dire Philippe on veut pas, Philippe on met des règles, Philippe on, mais on n'a plus le contrôle.
Mm-hmm. Et toi comment tu vis ça en fait?
Ah, c'est extrêmement difficile.
Est-ce que on remet ça dans ton contexte, t'es pasteur des femmes, t'écoutes des femmes à longueur de journée qui te racontent leurs propres défis. Comment est-ce que toi t'arrives à te dire j'ai encore quelque chose à donner à partager?
Mais ça, j'ai passé à travers toutes les phases du je suis vraiment une mauvaise mère, on est les pires parents du monde, on a l'impression qu'on est les seuls au monde. Mm-hmm. Ça, après ça de se dire ben toi t'as-tu quelque chose à... Je sais que pendant quand ça se passait, quand j'écris mon livre Précieuse comme un diamant, pourtant qui a été c'est bien apprécié, mais je me disais t'as quelque chose à dire, toi regarde ta maison. Mm-hmm. Et après ça qu'est-ce qu'on a fait, de demander pardon, on a fait des tentatives aussi de réconciliation, tu sais c'était pas juste hein, tu sais Philippe on a essayé. Mm-hmm. Si on a fait quoi que ce soit, de demander pardon, mais c'était le plus difficile, c'était de le voir
sombrer,
de le voir triste.
Ah, okay.
Et je me dis nous on apporte la vie partout. Puis dans ma propre maison, mon fils, il veut pas vivre parce que si tu veux aller jusqu'au bout de ton histoire, mais Philippe, il y avait ce mal de vivre là et je me dis, comprenez pas. Vas-y, Philippe.
Ben, c'est ça. Il y avait clairement, avec toutes les choses que j'ai énumérées tantôt, un mal de vivre tranquillement qui s'installe et au début, c'est la fête, c'est festif. Et bon, de plus en plus, ça devient une dépendance et ça vient un peu l'étiquette que je me mets que je suis accro, je suis un toxicomane, je suis un junkie. Donc ça détruit un peu mon estime de moi. Donc déjà que j'avais une vision sombre de la vie, mais de plus en plus ma vie elle devient sombre. Mm-hmm. Et là c'est vraiment là que je tombe plus dans une spirale infernale de consommation. Et qui m'amène beaucoup des idées noires. Donc, à un moment donné, la consommation aussi, elle vient comme une forme d'autodestruction. J'ai plus envie de vivre, donc je consomme des soirs, alors qu'il y a des gens qui consomment eux pour avoir du plaisir. Ben moi, je consomme en me disant, j'espère que demain je me réveille pas.
Mm-hmm. Et de cet événement-là, je me permets, parce que les gens, déjà quand j'apportais la parole, jamais je suis allée par respect pour lui de dire ce qui s'est vraiment passé. Mais il y a eu un moment où, quand il dit il voulait plus vivre, c'est exactement ça. Et pour certains, vous allez relier les histoires de ma vie, mais tu sais, je vous ai raconté que j'étais en arrêt, en burn-out pendant 8 mois, j'ai fait un mal de débarquement, tout ça. Et le Seigneur, c'est comme je comprenais pas, mais il a permis que je pouvais plus voyager du tout, parce que j'étais fatiguée, parce que les gens savaient pas, mais je portais, bien sûr, mon mari et moi, on portait notre fils, et là, je suis en arrêt de travail, puis moi, je comprends pas, mais je peux, et je suis dans mon salon, et je suis en train de prier pour Philippe, puis Philippe, il est en bas, et j'ai sa permission, je peux le dire, il est en bas dans sa chambre, et le Saint-Esprit me dit littéralement, là, en prière, descends. Mm-hmm. Descends, va voir Philippe, tu sais, et j'arrive là, puis Philippe, il dort, mais il respire comme pas, tu vois. Et là, je le secoue, je dis « Philippe, là! » Il est revenu, puis tu l'as même dit, tu l'as dit « Si t'avais pas été là, mm-hmm. je pense qu'il se serait pas réveillé. » J'avais dit « Tu voulais mourir, mais il m'avait dit « J'ai pas fait ça parce que je veux mourir, mais j'ai fait ça parce que je veux pas vivre.
Mm-hmm. »
Et moi, cette phrase-là, ça a changé... ça a changé ma vie, parce que je comprenais pas, tu sais, qu'avec Dieu, ce qu'on essaie de faire, comment tu peux ne pas vouloir vivre. Puis moi, ma vie, c'était de donner l'espoir aux gens qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Donc, j'étais confrontée à me dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, ça en est, tu veux continuer, suivi?
Ouais, je ferais quand même mentionner, sauf que j'étais sombre, puis il y avait beaucoup de choses que j'avais perdu espoir en la vie, mais que je voyais plus Dieu dans le monde. Et dans le monde en général qui est vaste, mais par contre, mes parents, je voyais vraiment une différence. Mm-hmm. Je voyais Dieu dans mes parents. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours été privilégié, c'était vraiment des bons parents. Mais c'était un peu aussi une leçon peut-être que c'était leur Dieu, c'était pas mon Dieu, et j'avais peut-être perdu espoir que ce qu'ils faisaient dans leur vie, ils pouvaient le faire dans la mienne. Mm-hmm. Et que moi, j'étais trop...
Trop loin.
J'étais trop loin, j'avais trop des comportements dans tout aspect de ma vie qui faisaient pas honneur à Dieu. Et donc, moi, je me voyais
peut-être
plus que...
Tu te disqualifiais.
Ouais.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. D'ailleurs, si on parle qu'avec la foi, avec Dieu, c'est un combat spirituel, mais moi, des fois, je me voyais comme dans l'autre camp.
Mm-hmm.
Donc.
Et tu t'affectionnais aux choses qui étaient sombres aussi.
Ouais, beaucoup.
Ouais. Mm-hmm. Et c'est... Donc tu consommais et en plus, tu t'intéressais à tout ce qui était un petit peu ténébreux, mystique.
Ténébreux, mais même dans la musique que j'écoutais, mm-hmm. que c'était de la musique très sombre, que. T'sais, ça pouvait être autant le métal, mais même le rap, c'était vraiment la musique que j'écoutais, le trap, tout ça, c'était vraiment de la musique qui accordait pas de valeur à la vie. Donc, mm-hmm. t'sais, c'était comme... je me nourrissais des chansons qui parlent de meurtre, qui parlent de mort, mm-hmm. de pauvreté, de tout ça.
Et pendant tout ce temps-là, est-ce que tu vivais chez tes parents?
Oui, pendant cette période-là, je suis chez mes parents. Donc, j'arrive à une étape bientôt, éventuellement, qui va m'amener à la désintoxication. J'ai des emplois, je travaille, même si je vais plus à l'école. J'ai un certain degré, éventuellement, je vais arriver à l'étape où je suis plus fonctionnel.
OK.
Je travaille parce que je dois payer ma consommation, mm-hmm. tout ça. Et donc là, à peu près, à 20 ans, mm-hmm. je vais arriver un peu à un point de non-retour où, là, je consomme tellement que je dois vendre sur le côté, je dois voler, je dois faire plein de choses et j'ai des problèmes d'argent aussi.
Mm-hmm.
C'est un peu aussi là que vraiment aussi...
Je suis au pied du mur. Ouais.
Je suis au pied du mur aussi dans ma santé parce que je commence à avoir des trucs que je me dis, comme qu'elle a mentionné dans mon sommeil et tout ça, ça vient des événements qui sont de plus en plus répétés.
Mm-hmm.
Donc là, je me dis, sur le long terme, pour ma vie, c'est dangereux.
Et je veux juste faire une pause. C'est très complexe quand tes parents, parce que tu sais, les gens disent, c'est drôle parce que les gens qui traversent pas ça, ils ont tous les meilleurs conseils du monde, tu vois. Ils disent, faut que tu le mettes à la porte, faut que tu fasses ci. Et ça, je veux juste le dire parce que mon mari et moi, on est allé chercher de l'aide à la famille pour ça. On priait, on avait des conseillers, on était pasteurs, on était équipés dans la vie. Mais à un moment donné, on savait plus quoi faire, tu sais.
Ouais.
Et je veux le dire pour un moment important parce que, un moment donné, Philippe, il était noir puis il était en garde à vue. Et moi, je devais aller faire une conférence en 2014. Et c'était une conférence qui s'appelle Inébranlable. Et j'étais ébranlée au plus profond de moi. Mmh. Et j'ai un problème de passeport, tu vois. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais pas. Puis ça jouait dans ma tête. Si je pars, il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et je portais ça. Et finalement, j'arrive à l'aéroport. Puis le pasteur est comme presque expiré. Je peux être là juste comme 4 jours. Fait que là, j'appelle Raymond, qui était en charge d'événementiel. Et je dis, écoute, ta conférence, là, oublie-moi. Je suis ébranlée. J'ai rien à dire. Je serais pas capable d'être là. On vit des choses difficiles, puis elle m'a comme saisie, puis elle m'a dit, parce que mon fils était en sécurité, mon mari était là, tu sais, on était... Mais elle m'a dit, tu t'en viens. Et je veux le dire peut-être à une maman qui vit des choses-là, tu sais, on n'est plus pasteur, là, on est juste une maman.
Ouais.
Et j'avais comme ce fardeau-là, puis là, j'ai embarqué dans l'avion, j'ai pris l'avion. Et là, quand l'avion a monté, j'ai comme senti ce fardeau-là tomber. Puis il me dit, Seigneur, tu vas prendre soin de lui, tu vas prendre soin de notre maison. Et finalement, je fais la conférence, et là, je donne... Je suis là 24 heures, le soir, il y a quelqu'un qui m'attend pour me ramener à l'aéroport. Et quand je descends de l'estrade, il y a une femme qui me regarde et elle dit, vous là, Stéphanie, quand on vous voit là, on sent que vous êtes une femme inébranlable.
Mm-hmm.
Et c'est fou parce que j'avais dit juste avant de monter sur l'estrade, j'avais dit à Justine Robichaud qui était là, prends mon téléphone, si Philippe essaie de m'appeler. Tu vois, j'avais tout ce fardeau-là. Et pourtant, le Seigneur a donné comme une grâce à travers ça. Et c'est curieux parce que c'était une conférence de femmes où j'ai senti, tu sais, le Seigneur était là puis il m'a donné la grâce de continuer. Mm-hmm. Mais on aura la suite de l'histoire. C'est aussi dans une conférence de femmes qu'il va se passer quelque chose.
À toute seule qui était là, événementiel 2014, vous souvenez-vous, dans quel état Stéphanie?
C'était sur Gédéon, un de mes passages. Absolument. Et c'est la grâce de Dieu. Et vas-y, quand tu peux continuer, Philippe. Là, tu deviens de moins en moins fonctionnel.
Ouais, moins en moins fonctionnel, qui va m'amener en désintoxication.
Mais comment ça se passe le passage à la désintoxication? Oui. Parce que c'est ta décision ou...
Ben là,
c'est amené par mes parents et même des gens de mon entourage, qui des amis, tout ça, qui me dit que faudrait que tu ailles en désintoxication.
C'est important juste de le dire, c'est qu'il fallait qu'il y ait un détox, mais nous, comme parents, quand, tu sais, quand on est parents chrétiens, je pense que tu peux dire, on a pardonné, on a aimé, on a racheté, on a payé, on a racheté, on a aimé. Mais il vient un temps où, en accord, mon mari et moi, il fallait, parce que là, toute la famille, on allait y passer, tu vois. Fait qu'on avait dit à Philippe, si tu as deux options devant toi, avec toute la plus peine du monde de dire, si tu vas, tu as la détox, c'est devant toi, ou tu as la rue. Ah. Ouais. C'est je voulais mourir. Je pensais mourir. Mais, et là, Philippe, t'as pris la bonne décision.
Ouais. Ben, se rendre en désintoxication. Moi, je consommais beaucoup des Xanax, comme 5 pilules par jour, environ. Et au début, on faisait des fausses prescriptions, tout ça. Et après, c'était devenu des Xanax de rue. Et on le savait même en les prenant que c'était des trucs qui avaient été faits dans des laboratoires clandestins, tout ça. Et donc, c'était vraiment à la fin, comme j'étais sans le savoir, j'étais aussi accro au fentanyl et à d'autres substances parce que les laboratoires clandestins, ils mettaient plein d'autres trucs pour rendre les gens accros. Donc là, c'est vraiment une période que physiquement, ma santé, tout ça est vraiment en décrépitude. Donc là, je rentre en désintoxication qui m'apprend à devenir un consommateur fonctionnel, entre guillemets. Quand je sors de là,
Ça reste combien de temps là-bas?
Un mois.
Et c'est un mois qui ressemble à quoi?
C'était difficile dans un sens parce que j'avais accès à la télévision une heure par semaine et un appel par semaine. Donc, on n'avait même pas accès à voir l'heure. Donc, c'est un peu une sensation de comment être en prison dans un sens. Et t'es enfermé vraiment avec toutes les gens qui ont les plus gros problèmes dans la société parce que j'étais aussi dans un centre où il y avait des gens qui avaient des problèmes de jeu, de substances alcooliques.
Des gens qui avaient perdu plein de choses.
Des gens, tu sais, j'entendais des histoires de « moi j'ai vendu le vélo de mon fils pour aller m'acheter du crack ». Tu sais, vraiment, tu vois vraiment le pire de la société.
Ça t'a pas trop donné d'espoir.
C'est ça, quand tu vois plus d'espoir dans le monde, dans la société, c'est sûr qu'elle est là, ça l'amplifie juste ce sentiment-là. Et c'est là pour moi que je sors de là et je deviens plus fonctionnel, donc je fais plus attention à ma façon de consommer, mais je consomme toujours. Pour moi, c'est vraiment une démonstration que pour moi, tout est dû à Dieu et que toute la gloire lui revient parce que la désintoxication, ça ne m'a pas guéri du tout. Ça m'a appris à être un peu plus fonctionnel, donc ne pas me rendre à l'article de la mort. Mais c'est vraiment Jésus qui m'a délivré de mes problèmes de consommation, qui a commencé à opérer tranquillement le changement dans ma vie. Tout ça, qui va être des années plus tard, parce que là, après, je fais quand même des années à consommer, mais je suis plus fonctionnel. T'sais, avant de rentrer en désintoxication, c'était tellement intense que je n'étais plus capable de travailler. Là, je peux maintenir une vie, tout ça. Jusqu'à des années plus tard.
Combien d'années, là, on se retrouve?
On est à peu près 5 ans, je dirais.
5 ans plus tard. Donc, 5 ans, tu consommes toujours.
Je consomme.
T'es pas hyper heureux. Mais t'es pas dans l'état dans lequel t'étais juste avant de partir en désintox.
Mais juste pour les parents, tu sais, c'est toutes ces années-là de prier, de demander le miracle, de demander la sagesse, que Seigneur guide-nous.
Non, 5 ans. Je sens que c'est long, quand même. 5 ans.
Là, ça mène à justement le fait que j'ai l'impression que ma vie, elle tourne un peu en rond. Donc là, je décide de retourner à l'école. Donc, je vais étudier en production cinématographique et télévisuelle. Et quand j'arrive à la fin de mon programme, je vais faire un stage. Et là, c'est ma mère qui me parle d'aller faire un stage avec une compagnie en France, qui n'est pas une compagnie chrétienne, mais qui est dirigée...
Avec beaucoup de chrétiens.
Avec beaucoup de chrétiens et qui est dirigée par un chrétien et qui fait aussi beaucoup de projets chrétiens. Donc, moi, c'est une opportunité professionnelle.
Donc, tu y vas?
Donc, j'y vais.
Mais pas pour vivre quelque chose.
Non,
c'est ma best life. Là, je m'en vais à Paris avec mon fils. Et tu sais, c'est sûr que j'espérais que que Dieu utilise ouais. cette situation-là. Est-ce qu'on peut raconter comment ça s'est passé par la suite ou bien ouais. tu veux aller ou tu je le dis?
Non, je
suis... OK. Eh ben en fait, moi j'ai tu sais comme maman au prix Seigneur les stratégies, tu mets les bonnes personnes ici là ça. Fait quand on arrive pour ne pas le dire, c'était à l'église Emelka où tu venais faire un stage et puis
le stage n'était pas avec Emelka mais la compagnie qui de fait Sam, l'audiovisuel.
Exact, avec Sam Dugas. Et Sam il savait
précise.
Voilà, oui, avec mon fils où je dois avoir ici. Mais dans le fond, Sam, que je connais bien, lui a dit, il faisait lui aussi l'audiovisuel pour la conférence de femmes d'événementiel en 2022, tu vois. Fait qu'il me dit, bon, Steph, si tu viens prêcher à Melka, c'est bien, ton fils va pouvoir faire le stage, mais amène-le avec toi à la conférence de femmes événementiel. On est toute la même équipe, puis il va pouvoir travailler avec nous. Et moi, je me suis dit, yes, mais une conférence de femmes, tu sais, lui, il pensait venir à Paris, puis là, finalement, on se retrouve à la conférence événementielle. Et puis, Philippe, moi, c'est déjà, merci Seigneur que Philippe voilà. est là. Et on est jet lag, mais on commence, tu sais, comment mes horaires sont chargés. Donc, on arrive, jet lag, tout le monde, on prêche. Bon, moi, quand j'ai prêché, ça s'est rien passé, mais Philippe est derrière la caméra. Mm-hmm. Et tu veux j'aille jusqu'au bout, après ça, tu rencontreras peut-être. Dans... Et Philippe est derrière la caméra, mais c'est parce que c'est tellement beau.
Oui, vas-y.
Je pars de la joie. Oui, parce que c'est pour une maman, c'est tellement... Et c'est tellement inconcevable. Quand Dieu fait, tu sais, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Mm-hmm. Il peut faire au-delà donc ce qu'on peut penser et même imaginer. Donc, Philippe, il est là, et c'est Maria Durso, une amie à moi qui amène son témoignage. Et Maria, elle vient de New York, dans le Bronx, elle a pris elle donne son témoignage, mm-hmm. qu'elle a consommé, que, en fait, tout ce que Philippe, son manque d'estime, comment est allé au plus bas des bas. Mm-hmm. Et Philippe, derrière la caméra, il est touché. C'est ce que tu m'as dit, il est mm-hmm. touché. Donc, après la journée de conférence, bon, Phil est avec les gars de caméra. Moi, je suis dans ma chambre et Philippe arrive le soir puis il me dit, maman, j'ai été vraiment touchée mm-hmm. par le témoignage de Maria. Ça m'a vraiment parlé. Fait qu'il me dit, tu penses-tu que je pourrais y parler? Mm. Mais elle est comme moi. Il est 11h le soir. On est jet lag. On n'a pas dormi de la nuit. Quand même, Maria, elle a, je pense, 70 ans, tu vois. Et là, j'ai dit, écoute, je vais la texter, mais c'est une amie, puis je sais qu'elle a traversé des choses. Fait que j'ai juste dit, Maria, mon fils a été touché par ton témoignage. Il aimerait parler. Est-ce que tu viendrais? Et ding! Ça a pas pris 30 secondes. Elle a dit, c'est quoi le numéro de la chambre? J'arrive. Et là, c'est de voir cette femme de cœur arriver, mm-hmm. mais tu sais, en pyjama, les lunettes pas maquillées, sa tasse de thé, tu sais, elle arrive mm-hmm. comme ça. Et là, je me suis éclipsée, puis ben là, tu peux prendre le relais. Et Philippe a passé un temps ouais. avec cette femme-là, que t'as pu parler avec ouais. elle et t'as prié avec elle.
Ouais, donc, j'avais été touché pendant sa prédication. Je me rappelle que, tu sais, je pleurais derrière la caméra. Et après le temps de prière avec elle où on a discuté jusqu'à tard dans la nuit, je sentais vraiment qu'elle me comprenait, qu'elle avait vécu des trucs similaires et ça me faisait du bien de voir comment Dieu l'avait restauré, mm-hmm. comment tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et là, je me disais, ah, s'il peut le faire pour elle, il peut clairement le faire mm-hmm. pour moi. Puis ça me faisait comprendre que justement des fois je me sentais pas digne, mais là je réalisais que, comme avec Jésus, t'es jamais allé trop loin mm-hmm. pour qu'il arrête de t'aimer puis qu'il te pardonne. Donc c'est vraiment ce moment-là que je fais la paix avec Dieu dans un sens. Mm-hmm. Et là quand je reviens au Canada, ben c'est pas le changement drastique du jour au lendemain, mais je sens que... qui s'est enclenché, que j'ai accueilli dans un certain sens le Saint-Esprit, puis là, il veut commencer à faire le mmh. travail en moi. Et je me mets aussi à consommer un peu de la musique chrétienne, à écouter des messages. Je vais m'impliquer aussi, j'étais pas très régulier d'aller toujours à l'église, mais je vais m'impliquer aussi à faire les caméras à Nouvelle Vie. Et là, je vais commencer à avoir des gens aussi... autour de moi qui sont des influences positives. Mm-hmm. Et ça me donne de plus en plus le goût, justement, de vivre une vie chrétienne.
Mm-hmm. En fait, là, à partir de ce moment-là, quand tu as vécu ce temps en France à la conférence de femmes, c'est que tu as fait la paix avec Dieu. Mm-hmm. Et c'est que, tu vois, dans tout ton témoignage, c'est comme t'as pas d'espoir. Il y a rien ouais. qui te rattache à la vie, qui te donne envie de vivre. Mm-hmm. Là, c'est comme, il y a comme quelque chose qui se lève en toi ouais. et un nouvel espoir de se ouais. dire, bah, ça vaut la peine. Mais est-ce que t'es en mode j'essaye
où je vais voir ce que ça va donner, où t'es quand même dans une démarche volontaire et engagée, même si t'en parles pas trop autour de toi?
Ouais, je suis engagé. Par contre, justement, je sais que j'ai des choses à corriger dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un qui comme autant que j'étais intense dans la consommation, mm-hmm. je suis quelqu'un d'all-in.
Fait Philippe, c'est un vrai de vrai. Si t'es chrétien, c'est un vrai de vrai.
Donc au début, je suis pas nécessairement tant je suis engagé un peu, tu sais, mais je sais que j'ai des choses à corriger dans ma vie. Mais tranquillement, je prie de plus en plus, mm-hmm. Je recherche de plus en plus vraiment à la présence de Dieu et comme je dis de corriger ma vie.
Et nous, on le voit dans ces... on le voit changer. Ouais,
le changement, il commence à s'amorcer. Et puis plus que je priais, tout ça, je priais plus que je cherchais Dieu. Dans des moments de prière particuliers où je me rappelle comme un moment que j'avais vraiment senti que Dieu mettait sur mon cœur, qui me disait, t'as perdu 10 ans de ta vie dans un sens, mais je vais te les redonner, puis ça va être mieux. Et puis justement, là, il y a plein de choses qui ont commencé à s'enclencher du moment que je mettais ma vie en ordre. Ben, une des premières étapes qui était, une étape qui était aussi majeure, c'est, ben, je trouvais pas d'emploi dans mon domaine. Donc, je faisais un emploi que j'aimais pas, même si j'avais eu mon diplôme avec mention. Et donc là, je travaille, moi, à contrat, mais j'ai pas assez de contrat pour vivre de ça. Je fais un emploi que j'aime pas. Et ça va m'amener éventuellement ben à travailler ici.
À l'MCI. À l'MCI. Et c'est vrai, Philippe, toi, t'es arrivé. Et puis Stéphanie a dit, mais il va bien. Il va bien et tout. Et c'est vrai que je pense que comparé à tout ce que t'avais pu vivre, t'allais bien. Et là, bah, on va sauter quelques étapes. Mais donc, t'arrives à l'MCI et t'es en pleine phase de restauration. Mmh. Tu vis des belles choses avec le Seigneur. Mais en même temps, c'est pas toujours facile, ouais. Il y a encore quand même des combats et peut-être dire un mot sur ce que tu as pu vivre en étant ici parce que donc Philippe il travaille en régie. C'est lui qui enregistre
à table.
Avec l'équipe de la régie mais une partie des émissions de À table de sa maman.
Mais beau miracle, tu sais, vraiment c'est extraordinaire de faire le ministère avec son fils. Continue. Voilà,
et donc c'est ça, tu participes, toi tu t'enregistres dans la régie des émissions, donc t'écoutes tout un tas d'émissions à longueur de semaine et en fait ces émissions c'est dans la parole que Dieu t'a donnée, les 10 ans que t'as perdu, même dans ces émissions là en fait il y a plein de choses qui te sont redonnées.
Ouais, ben j'en profite d'ailleurs pour saluer mes collègues Josh, Aurel et Hervé qui sont des bénédictions dans ma vie. Mais c'est sûr que d'être à la semaine longue avec des gens qui sont vraiment ancrés dans une relation avec Dieu, ça change tout. Et de recevoir de l'enseignement, donc même là, je reçois beaucoup d'enseignements. Ça m'a permis vraiment de... Spirituellement, ça m'a vraiment donné un boost, un développement spirituel, je pense. J'ai reçu, en travaillant ici, le baptême du Saint-Esprit, donc la prière en langue, tout ça. Et j'ai vécu beaucoup de choses et même qu'on y a eu des moments où j'ai ressenti un peu des attaques qui revenaient, des combats. Ben j'ai eu des moments de prière avec ton mari Jérémy et Frank qui sont vraiment des moments que je sais que je vais me rappeler toute ma vie, qui ont fait une différence et ça m'a vraiment confirmé mon identité d'enfant de Dieu et ça l'a apporté beaucoup. Et aussi dans le processus de qu'on dit que Dieu il me redonnait, et ben là que ma vie est en règle, que j'ai changé, que je me sens vraiment en paix devant Dieu de qui je suis.
Tu peux dire que tu ne consommes plus aussi.
Du tout, 100% abstinent. Et par contre j'étais quelqu'un qui avait des tendances alcooliques et maintenant Dieu m'a guéri que je suis capable de prendre un verre et j'ai totalement le contrôle. Donc, c'est plus occasionnel, mais je sais que ça, c'est vraiment Dieu m'a délivré de ça, parce qu'avant, je n'avais pas le contrôle.
Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi récemment?
Mais aussi, quand je disais que Dieu, il m'avait mis sur le cœur qu'il allait rattraper le temps perdu, c'est Ben, il y a bientôt maintenant un an, je rencontre une demoiselle. L'histoire a été même racontée déjà ici, à table à Annabelle, tout ça.
Il y a une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas que tu vas nous raconter aujourd'hui.
Oui.
Et puis on peut te voir avec...
Oui, la belle Amanda.
Avec ta belle Amanda, avec qui tu vas...
Je vais me marier le 30 août.
Yeah, ouais. Je veux que tu racontes quand tu l'as fiancé. C'est important. Ça m'a tellement touché quand tu me l'as raconté.
Ce qui était vraiment, quand je l'ai vécu, un clin d'œil de Dieu. Des fois, je trouve Dieu, il y a un humour particulier. C'est toujours drôle de voir comment qu'il met les choses en place. Mais en gros, la journée où j'avais prévu la demander en mariage, on devait aller... au Mont-Royal, et je voulais la demander en haut du Mont-Royal. Et finalement, il faisait très froid. Donc là, à la dernière minute, en route pour Montréal, avec elle, je fais des... Là, je regarde, on regarde pour appeler, pour faire autre chose, et là, je me dis, ah, ben, il y a ce spa-là. Parce que j'ai habité aussi à Montréal pendant une période de ma vie, donc je connaissais bien la ville, j'étais comme, ce spa-là, qui est dans le vieux port, et que t'as vu sur la ville, puis j'étais jamais allé.
Mm-hmm.
Et en fait, ce spa-là, quand j'étais en désintoxication de ma chambre, j'avais vu sur ce spa-là qui est dans le vieux port, qui est sur un bateau en fait,
mm-hmm.
où il y a des bains et tout ça. Et la journée où j'ai fait ma demande à ma future femme, je suis dans le spa, mais de l'autre côté. Mm-hmm. Et là, j'ai vu sur
tu
mon centre de désintoxication.
Ah, ouais.
Alors qu'à l'époque que j'étais dans le centre de désintoxication, c'était je voyais ma vie, mon avenir comme sans espoir, puis que ça allait être de pire en pire ou que des problématiques. Et même là, à un certain degré, je pensais pas me rendre en vie à l'âge que j'ai actuellement.
Mm-hmm.
Et là, c'est comme avec Dieu, je suis rendu de l'autre côté.
Mm.
Et je me rappelais que ça m'amenait beaucoup d'amertume et de tristesse d'être pris là et de voir les gens dans le spa, les couples, tout
mm-hmm,
ça,
mm-hmm.
qui se détendaient, qui faisaient la belle vie, pendant que moi, j'étais comme...
Emprisonné.
Ouais, emprisonné. Donc, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu, mm-hmm. de regarde où ce qu'on s'est rendu ensemble, ce que j'ai fait dans ta vie.
C'est merveilleux. Mmh. C'est plus qu'un clin d'œil.
Ah ouais.
Moi, j'ai un petit clin d'œil. Non, mais c'est vraiment merveilleux de voir que même dans ces détails-là, comment Dieu a été fidèle avec toi. Et tu vois, on a entendu le témoignage de Clémentine mercredi aussi, de voir comment Dieu a fait. À la fois, il y a des choses radicales, mais il y a des choses qui ont pris du temps. Puis on voit que toi, il y a eu des événements marquants. Et on parlait ensemble, tu racontais ton histoire. Je me dis, mais il est tellement... maintenant, il est tellement sérieux dans ta vie chrétienne. Mm-hmm. T'es à fond, t'es hyper sérieux dans ta vie de consécration, etc. Mm-hmm. C'est beau à voir et c'est quasiment difficile d'imaginer que t'as eu cette vie-là il y a quelques années. Et c'est aussi difficile d'imaginer que même toi, t'es venu faire des émissions, des paroles de femmes à l'époque et que tu passais à travers tout ça. Et c'est pour ça que je disais toutes les femmes vous avez qui avaient assisté à événementiel en 2014, mais aussi dans les années peut-être d'avant, après, voilà, tu vivais ce...
Les gens n'ont pas d'idée des fois quand on fait le ministère, on porte nous-mêmes des fardeaux. Et c'est bien sûr que moi, jamais, tu sais, je voudrais repenser par ces événements-là, bien certain. Mais une chose est certaine, c'est que à travers l'histoire de Philippe, puis l'avoir accompagné mon mari et moi dans tout ça, ça a changé dramatiquement ma façon de prier, ma façon d'aimer, de prêcher, parce que la souffrance de Philippe, elle est partout autour de nous. Et des fois, on est dans notre monde, on est entre amis, entre chrétiens, on fait des réunions, et c'est correct. Mais c'est comme si moi, le Seigneur a permis de traverser ça, et j'oublierai jamais cette souffrance-là. Puis je veux dire, quand je prêche, elle m'a donné encore plus de passion.
Mm-hmm.
Parce que les gens ont besoin d'entendre le plus puissant des messages.
Mm-hmm.
Jésus-Christ mort et ressuscité. Et ça m'a donné, parce que j'étais en prière, puis le Seigneur m'avait donné un verset, il me dit, je suis sur le point de faire quelque chose mm-hmm. de nouveau. Et j'avais dit au Seigneur, là, j'ai besoin de le voir après, parce qu'on dit 8 ans, mais ça a fait 12 ans presque bout à bout.
Mm-hmm.
Et quand, parce que je dis, c'est beau, Seigneur, on peut voyager à travers la Franco, mais si on le voit pas dans notre propre mm-hmm. maison. Et finalement, Dieu a été fidèle et j'ai vu Dieu agir et ça m'a donné un feu encore plus et juste des beaux Philippe comme ça. Il y a plein de d'hommes et de femmes que Dieu veut sauver, guérir et rendre libres.
C'est un message vivant pour, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de mamans qui prient pour leur fils, pour leur fille. C'est pas forcément exactement les mêmes problématiques, mais c'est la même douleur, la même souffrance et les mêmes prières de désespoir. Et avant qu'on termine, est-ce que t'aurais un mot à dire peut-être à ces parents qui ont des enfants qui passent par des moments difficiles?
De dire que peut-être des fois on voit pas la lumière au bout du tunnel, puis ça peut être long, ça peut être des années comme avec moi. Mais je pense que tant qu'on reste avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, parce que moi, même aujourd'hui, mes parents, c'est un modèle pour moi de foi puis de persévérance. Puis je pense que Dieu a tout mis ça en place pour les raisons, et toutes les raisons, il y a que lui qui les connaît. Mais maintenant, aujourd'hui, il peut se servir de mon histoire pour communiquer à d'autres qu'il va le faire. Et comme je dis, moi, c'est vraiment juste inspirant de voir aussi que mes parents, parmi les moments les plus difficiles, qui ont jamais perdu foi, qui ont jamais toujours eu confiance que Dieu y allait le faire. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment, c'est inspirant.
Mm-hmm. Et qui t'ont toujours aimé aussi.
Ouais.
On serait allé le chercher au...
qui est l'amour de Jésus, dans le sens que...
Ouais.
Qui pardonne, puis qui est toujours prêt à t'aider à te relever.
Et on le dit souvent dans l'émission, et je veux le redire, mais ce que Dieu a fait dans la vie de Philippe en tant que fils, il peut le faire dans la vie de vos enfants. Et ce que Dieu a fait aussi dans le cœur de Stéphanie et de son mari pendant toutes ces années, bien, il peut le faire. Tu te dis, j'ai plus de force, j'ai plus d'espoir. Il y a encore de la force, il y a encore de l'espoir. Toi, tu te dis, c'est terminé. Mais non, ce n'est pas terminé. Regarde aujourd'hui Philippe. Et c'est un message d'espoir pour ton cœur. C'est pas pour dire, oh, ça arrive qu'aux eux. Non, pour toi aussi. Mmh. Et on veut ensemble déclarer que vos fils et vos filles reviennent, que d'une façon surnaturelle, d'une façon peut-être que vous n'aviez pas calculé, comme une conférence de femmes pour Philippe, c'était, je pense, la dernière solution que tu avais proposée.
Exactement. C'était pas une stratégie. J'ai beaucoup de stratégies, mais celle-là n'était pas là. Ouais.
Et Dieu peut vous surprendre. Mais aujourd'hui, on veut vous encourager pour que vous puissiez reprendre espoir et peut-être aussi repartir dans la prière, parce que c'est douloureux aussi qu'à la fois de continuer de prier. On se dit, c'est remettre mon cœur là-dedans. Est-ce que j'ai le courage? Oui, vous avez encore le courage, parce que Dieu est encore au contrôle. Et je crois qu'à travers cette émission, il y a des filles, il y a des fils qui reviennent à la maison. Et ils reviennent pas seulement dans votre maison, mais ils reviennent vers leur père, leur père céleste. C'est la vie de Philippe, c'est une vie qui aujourd'hui t'a été délivrée, on l'a dit, de la drogue, de toute forme d'addiction, de ce mal-être. Mais c'est surtout que t'as fait la paix avec Dieu et qu'aujourd'hui t'as l'assurance de la vie éternelle. Et que t'es, comme ta mère a dit, t'es all-in.
Ah oui, ah oui, y a pas de... c'est tout, et ce n'est que le commencement.
Et cette parole, vas-y.
Je t'aime.
Oh, filmez-les, pas moi.
Je sais que le Seigneur ne fait, ça ne fait que commencer. Il va utiliser ton témoignage. Je suis fière de toi.
Amen.
Donc voilà, sur le et on a été très heureux, Philippe, que tu sois là avec nous. Merci d'avoir partagé pour la première fois ton histoire de façon publique, et ce sera sûrement pas la dernière d'ailleurs. Et merci Stéphanie aussi, merci. Hein, d'avoir été courageuse, d'avoir combattu le bon combat pendant toutes ces années et d'avoir été un repère pour beaucoup de femmes dans la francophonie.
Et juste de dire que même quand on n'a plus la force, le Seigneur y renouvelle nos forces, et toujours continuer à croire qu'il peut le faire, parce qu'il est le Dieu de l'impossible.
Amen. Donc un grand merci à vous deux. Je vais les laisser vivre un moment, mère, fils. Et on se dit à bientôt. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À Table avec Annabelle sur emcitv.com.